En préparant cette émission, vous me disiez que votre joie aussi, de voir cette église paroissiale sous le patronage du Sacré-Cœur, revivre un petit peu avec ces travaux qui ont vraiment bien avancé. Et puis clin d'œil à l'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur. Et puis clin d'œil aussi à notre nouveau pape, le pape Léon, dont
Dans les armes.
les armoiries évoquent le Sacré-Cœur. Ça, c'est un peu votre fierté, on peut le dire.
Écoutez, en tout cas, c'est une immense joie d'être arrivé au bout de 10 ans à voir les choses sortir de terre, parce que n'ayant pas assez de foi pour, comme Moïse, accepter de ne pas rentrer dans la terre promise, là, pour le coup, je suis heureux de pouvoir toucher du doigt, à l'échelle humaine, la réalisation de quelque chose. C'est un immense soulagement parce que toutes ces 10 années, vous vous en doutez, ont été un parcours d'interrogations parfois, de difficultés. Est-ce qu'on continue? Comment continue-t-on?
Vous avez eu des doutes, Christian? Il y a des moments, Christian Gélis, où vous vous êtes dit, on verra pas le bout. À quoi bon? On a réglé tel problème, il y en a un autre qui arrive. Les gens attendent. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, on s'est trompé?
Alors ça, à aucun moment. Et je vais vous dire qu'à chaque fois que non, nous étions visités, non pas par le doute, mais par une certaine lassitude, en se disant, bon, alors, comment va-t-on y arriver? Ça devient compliqué. Où on s'attendait à ce que les choses puissent devenir extrêmement complexes, extrêmement gérées, serrées pour les gérer, parce que, tout simplement pour des raisons financières, hein, les moyens dont nous pouvions disposer, ben, c'était amenuisé, et que nous partions sur autre chose parce qu'il fallait impérativement. Eh bien, croyez-le ou non, mais je pense que vous allez le croire avec moi, à chaque fois, la Providence a répondu dans la semaine à notre questionnement. Mais pour la question du doute, non. Peut-être d'ailleurs aurions-nous dû douter de nous-mêmes. Alors, de notre propre capacité à faire, oui. Douter de si cette chose-là était bonne à faire et à porter, jamais.
Alors, vous évoquez la question financière. On ne peut pas ne pas aborder ce point-là, puisque au bout de 10 ans de l'existence de cette association, le Toit du Cœur, et après tous ces travaux qui ont déjà été réalisés, on ne peut pas ne pas vous poser la question. Comment ça s'est passé, le financement? Comment vous avez pu porter le financement? D'abord, est-ce qu'on peut dire combien ont coûté tous ces travaux qui ont été déjà réalisés et peut-être ceux qui restent à réaliser?
Alors, on peut parler d'argent un petit peu. Alors, il faut savoir que dès l'origine, et à l'époque, je faisais partie un peu de l'équipe qui, à l'office de tourisme, avait porté ça avec des adjoints à l'époque du précédent mandat, nous avions proposé que les travaux de restauration de l'église paroissiale de Lourdes, pour la part portée par les pouvoirs publics, par la municipalité, soient imputés sur la collecte de taxes de séjour et non pas sur les finances du contribuable lourdais en tant que tel. Pour autant, vous vous en doutez, quand on considère l'enveloppe globale, tout compris, qui doit avoisiner les 3,5 millions, 4 millions, si ce n'est pas un peu plus, il fallait bien qu'on trouve du mécénat privé pour aider et en tout cas permettre d'arriver au bout, parce que les finances de la taxe de séjour, elles ne pouvaient pas non plus financer que cet édifice-là. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous sommes partis, parce qu'à l'époque, il y avait eu une souscription à la Fondation du patrimoine qui avait été ouverte par la mairie. Simplement, c'était une souscription qui... Mais comme souvent ces souscriptions, s'il n'y a pas des gens qui animent la souscription pour proposer de faire vivre cet enjeu-là dans l'esprit du public, etc., les gens, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont mis quelques milliers d'euros et la souscription s'arrête. Et quand on s'est rendu compte de ça, on a dit, écoutez, il faut qu'on s'en mêle, qu'on fasse vivre le truc. Et puis, c'est comme de tout, à partir du moment où nous avons organisé beaucoup, à l'époque, beaucoup de manifestations localement et énormément de concerts avec le concours d'Arnaud Penet, on a pu... on a aussi intéressé le grand mécénat. Et on a intéressé le grand mécénat, pourquoi? Parce que le grand mécénat ne s'intéresse au projet que s'il constate que les populations concernées s'y intéressent aussi.
C'était le cas.
Et bien évidemment, c'était le cas. Et aujourd'hui, effectivement, on est beaucoup plus à l'aise, parce qu'au bout de 10 ans, on acquiert aussi une compétence, hein, parce que la recherche de mécénat, la gestion de fonds et de projets, c'est une compétence. On a 10 ans d'expérience derrière nous. Il y a des choses qu'on ne referait pas de la même manière, mais en tout cas...
Comme quoi, par exemple ?
La communication, par exemple. On oserait la faire parfois plus, probablement plus assertive, plus agressive.
Vous avez été timide au départ ? Vous n'avez pas osé au départ ?
Au départ, il est difficile d'oser. Moi, le premier, pourtant, je n'ai pas la réputation d'être tout à fait réservé, mais on y est allé avec beaucoup de pudeur, hein, n'est-ce pas, Jean-François ? Avec le sentiment qu'on allait demander des choses et que peut-être on allait déranger ou des choses comme ça. Mais en réalité, on s'est rendu compte très vite que notre projet était suffisamment bon, suffisamment vrai, pour qu'il ne faille pas non plus secouer les portes sans espoir et qu'elles s'ouvraient. Ça aussi, c'est un bel enseignement. Mais ça me rappelle une parole célèbre, « N'ayez pas peur ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'en n'ayant pas peur d'oser, les choses existaient et se faisaient. Ça ne veut pas dire que derrière, on n'a pas travaillé. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne s'est pas donné les moyens d'être crédible, parce qu'évidemment. Mais nous-mêmes, nous nous sommes, entre guillemets, formés sur le tas. Et nous sommes sans doute devenus un peu meilleurs au fil du temps. Voilà.
Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien. En tous les cas, pour en finir sur cette question des finances, vous pouvez nous dire aujourd'hui que entre la contribution de la municipalité et tout le mécénat qui a été porté grâce à l'association Le Toit du Cœur, en fait, vous allez pouvoir couvrir l'ensemble des coûts des travaux.
Ah oui, complètement. Alors, je ne vous ai pas dit les montants. Je veux dire, l'enveloppe globale, elle doit environner tout compris entre la taxe de séjour et le mécénat, la contribution initiale de la ville, elle doit avoisiner les 4 millions et demi. Et le Toit du Cœur ayant globalement contribué pour 20%, quelque chose comme ça, de la somme. Mais aujourd'hui, tout ce qui doit nous permettre d'arriver au bout, aujourd'hui, est financé. Alors bien évidemment, après il y a l'émulation, parce que derrière le curé titulaire, Pierre Jamais, s'est donné l'idée de vouloir créer une nouvelle chapelle de l'adoration. Il y a encore la crypte qu'il faut restituer. Il y a des choses, mais qui aujourd'hui sont de moindre signification, j'entends, sur le plan financier, que ce que nous avions. Nous, ça y est, on est au bout. Et...
Quand est-ce que vous pourrez dire « C'est fini, c'est bon, on a tout fait, c'est terminé.
Ouais, » Je vais vous le dire, puisque le point d'arrêt, le point final, la coda, comme dirait l'autre, c'est le 15 août, puisque nous avons décidé, avec la mairie et Monseigneur Mika, de tenter de fixer une date d'inauguration générale du lieu et de l'espace Parvis qui est devant, parce que...
C'est le dernier point de cet entretien, c'est l'extérieur. En ce moment, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils viennent à Lourdes et qu'ils veulent déjà venir prier dans cette église paroissiale, ils seront époustouflés par l'église paroissiale, un petit peu moins aujourd'hui, alors qu'on enregistre cette émission, par les abords. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout ça va se combiner ? Parce que, est-ce que c'est forcément, on imagine que c'est lié, vous avez eu une réflexion globale là encore.
Alors il y a eu une réflexion globale, en fait, là, la réflexion sur le parvis, elle a été portée par monsieur le maire de Lourdes, Thierry Lavitte, qui, considérant l'importance de ce que nous avions fait tous collectivement dans l'église, s'est dit mais il faut que le parvis devant et les abords et qui accueille un cheminement venu du sanctuaire, parce qu'il y a aussi l'idée que je trouve personnellement forcément excellente, de repositionner ce lieu qui contient les fonts baptismaux. La chose est la plus connue, mais elle ne contient pas que ça. Mais en tout cas, d'en faire un lieu, un point de passage quelque part obligé du pèlerinage et du cheminement. Et pour que ce cheminement il se fasse dans de bonnes conditions, il fallait que l'Église puisse accueillir les pèlerins et les fidèles, ne serait-ce que déjà sur son parvis.
Parce qu'on rappelle quand même que l'Église est sur les pas de Bernadette, évidemment, et que nombreux sont les pèlerins qui viennent prier dans cette Église.
Ils sont... Je crois ceux qui y passent, en tout cas, plusieurs centaines de milliers par an à y passer. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est un lieu qui est un grand lieu d'appel, hein, là-dessus. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué que les gens étaient quand même en train d'admirer ou de contempler ou de tenter de comprendre ce qui se passait dans le cœur, mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Le parvis, il a été voulu par l'actuelle municipalité qui considérait que, et avec raison, nous le pensons, qu'il fallait bien que l'espace extérieur soit à la hauteur de ce qui s'était fait à l'intérieur. Et donc, il y a une reconfiguration du parvis avec une suppression des stationnements qui étaient très très proches, une revégétalisation et la mise en place, le déplacement de la grande statue monumentale de Dominique Peyramale. Alors, je ne sais pas si le fait est connu ou pas, mais en tout cas, monsieur le maire l'a dit l'autre jour, la fonte d'une nouvelle statue de Bernadette qui allait compléter sur ce parvis et symboliser la rencontre que nous connaissons tous.
Donc c'est Sainte Bernadette qui nous accueille à l'église paroissiale et qui nous conduit au Sacré-Cœur.
Absolument, c'est Sainte Bernadette qui nous accueillera. Et puis rendre l'environnement écoutez, plus agréable aussi pour se poser. Vous avez vu que la brûlerie de café s'étend et va installer un bar snacking, salon de thé. Enfin, tout ça aussi va permettre aux gens de se poser, de se reposer.
Et de se rencontrer.
Et de se rencontrer et faire de ce parvis ce qu'il doit être, c'est-à-dire un agora.
Alors, on termine avec une question pour chacun de vous. Abbé Jean-François Duard, avec tout ce qu'on a entendu, alors on comprend que vous vous êtes engagé pour le beau, pour le sacré. Et justement, ma question, elle est liée à ça. Comment le beau, l'artistique, sert la prière, sert le sacré, sert la dimension spirituelle et pastorale de ce lieu?
Que vous dire? À travers cette réalisation, eh bien, on a permis qu'en ce premier quart de 21e siècle, l'Église puisse se réapproprier la création artistique. Parce que de tout temps à jamais, l'Église a été mécène pour les artistes. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui cela serait réservé à une élite non religieuse de pouvoir permettre au beau de voir le jour. Le génie, en fait, de l'Église, c'est de permettre à tout homme, toute femme, quelle que soit sa condition, d'avoir un accès direct à la beauté. Parce que justement, l'Église est un bâtiment ouvert à tous. Et quelle que soit notre origine, notre état social, eh bien, on peut communier au beau. Et ça, c'est un des grands privilèges que l'Église favorise, cette accessibilité pour toute personne.
Merci beaucoup, Abbé Jean-François Duard. Christian Gélis, le mot de la fin. Pour nous dire dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, allez, 10 ans après la création de l'association Le Toit du Cœur.
Je suis dans un état d'esprit de serein, soulagé, heureux, et en même temps, les choses, la vie ne s'arrête pas à ça. C'est pas un bâton de maréchal, c'est pas une couronne, c'est pas tout ça. C'est le sentiment d'avoir contribué à quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Dans cette église, prier, mon grand-père, ma grand-mère, qui y vouaient... on a tous dans nos racines et dans notre geste familial quelque chose qui nous pousse pas à faire les choses. Moi, certes, c'était une relation avec Jean-François, puisqu'on était tous les deux scolarisés à Saint-Joseph il y a bien longtemps. Bien longtemps, aux mêmes époques, mais cette église, j'ai été baptisé, j'ai été porté sur ses fonts baptismaux, j'y suis allé à la messe lorsque j'étais jeune jusqu'à l'âge de mes 18 ans avant de quitter, et il est important, et il est de transmettre, tradérer. La tradition, c'est pas autre chose que la transmission, et on y a tous une certaine forme d'obligation. Et après, je vais vous dire, il y avait aussi une forme d'éducation. Je le dis souvent à l'abbé Duard. Je dis, l'embêtant, c'est que ma grand-mère disait tout le temps, si tu peux rendre service, non seulement tu peux le faire, mais tu dois le faire. Et quand vous êtes coincé dans des philosophies pareilles, que voulez-vous faire d'autre ?
Un grand merci à tous les deux, à Jean-François Duluard. Je rappelle que c'est vous qui avez initié ces travaux en l'église paroissiale de Lourdes alors que vous étiez curé de cette paroisse. Vous êtes membre cofondateur de l'association Le Toit du Cœur, une association dont vous êtes le président, Christian Gélis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.